Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
À ce moment-là, je me dis, je veux faire de la recherche, je veux enseigner. Et en fait, ça, pour le coup, ça ne m'a jamais quitté. Je fais mon mémoire de maîtrise sur le mariage et la sexualité des clercs à l'époque mérovingienne.
Okay.
Donc, un an à étudier les évêques fornicateurs, c'était merveilleux.
Salut, c'est Hugo de Hugo Décrypte. J'espère que vous allez bien et bienvenue sur le podcast de l'interview de ma chef. Alors, chaque semaine, je reçois une personnalité, quel que soit le domaine. Ça peut être un artiste, un journaliste, un sportif ou encore un youtubeur avec qui je me pose dans le salon, confortablement installé dans les fauteuils pour revenir sur son parcours et sur les points de bascule de sa vie. Ça donne des échanges très souvent riches en enseignements. Bienvenue du coup, si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner à ce podcast pour ne pas louper les suivants. Je terminerai avec deux petites infos supplémentaires. Cette interview se fait dans le cadre de mon émission Mashup, diffusée sur la chaîne Twitch Hugo Décrypte chaque mercredi à 20h. Donc pour vivre cet échange en direct, rendez-vous directement sur Twitch chaque mercredi. Et par ailleurs, pour découvrir le reste de l'émission Mashup en podcast et notamment les actualités, eh bien vous pouvez taper Mashup les actus directement sur votre application de podcast. Je vous souhaite une très bonne écoute.
Simon Viktorovic, salut, tu vas bien?
Salut Hugo, ça va et toi?
Très bien, très très bien. Je suis ravi de te recevoir ici.
Bah, ravi d'être ici, moi aussi.
Tu sais que tu faisais partie des premiers noms qu'on avait notés dans la liste des invités que je voulais qu'on ait dans cette émission pour cette première saison, donc ça fait super plaisir. Bien installé, ça va?
Fort bien installé dans un canapé, enfin, un fauteuil d'un confort monumental.
Retrouvé dans un antiquaire ou une brocante, je ne sais même plus. Donc, j'aurais pas la ref pour ceux qui se demandent et qui demandent à chaque fois qu'on fait cette émission-là. Mais plutôt confortable, juste faire attention à ne pas s'endormir.
Oui, c'est le risque, c'est le risque.
On va essayer d'avoir une émission suffisamment dynamique pour que ni les gens qui nous écoutent, ni toi ne s'endorment pendant l'émission. Pour te présenter, alors, tu es spécialiste de rhétorique. C'est un terme qu'on pourrait utiliser pour te définir. On va essayer de comprendre ce que c'est la rhétorique juste après, histoire de bien commencer. Tu es par ailleurs professeur à Sciences Po, enseignant à Sciences Po, chroniqueur sur France Info. Beaucoup t'ont connu dans le cadre de d'autres choses parce que tu as été avant ça sur CNews pendant un moment, on va en parler, mais aussi sur Click avec Mouloud Achour. Tu es aussi beaucoup aujourd'hui sur Twitch, ce que tu développes quand même de plus en plus. Là aussi, on va en parler. Beaucoup de choses à voir et par ailleurs, tu as été un de mes anciens profs, je le dis dès maintenant. Beaucoup de gens le savent parce que j'ai tendance à répéter que tu as été, et c'est le cas clairement, l'un des cours qui m'a le plus marqué de toute ma scolarité à Sciences Po. Donc, très heureux de pouvoir te recevoir cette fois-ci
ici,
pour pouvoir discuter. Et par ailleurs, je le dis dès maintenant, on va parler de rhétorique ce soir. Et tu as écrit ce livre récemment qui s'appelle « Le pouvoir rhétorique, apprendre à convaincre et à décrypter », j'adore ce mot, incroyable, les discours aux éditions du Seuil, où tu reviens justement sur ces leçons sur ce que c'est la rhétorique. D'ailleurs, une petite définition pour ceux qui voudraient essayer de comprendre la rhétorique. Selon toi, qu'est-ce que c'est?
En un mot, c'est l'art de convaincre. L'art de convaincre et, je dirais, l'art d'être convaincu. C'est-à-dire que maîtriser la rhétorique, c'est se demander comment faire pour présenter sa pensée de la manière la plus convaincante possible. Et c'est aussi se poser une autre question qui est justement liée au décryptage, c'est quand est-ce que j'ai envie d'être convaincu? C'est-à-dire que le bon rhéteur, ce n'est pas celui qui ne se laisse jamais convaincre, parce qu'il n'y a rien de plus facile que de dire non. C'est celui qui est capable de déterminer quand il a de bonnes raisons d'accepter d'être convaincu.
Et c'est là où c'est très fort, c'est que dans le cadre du cours, et je pense que c'est aussi ce que tu transmets, et via les chroniques que tu peux faire régulièrement, et j'imagine via ce livre-là aussi, c'est le fait que la rhétorique, et quand on enseigne ça ou quand on en parle, ce n'est pas dans un objectif forcément de l'utiliser à mauvais escient, c'est plus dans un objectif d'être conscient de ça et de pouvoir s'en protéger en soi personnellement et être conscient de ce qui peut se passer quand on regarde un débat, quand on est face à quelqu'un qui peut utiliser certains arguments qui peuvent nous déstabiliser, de comprendre, c'est ça, les mécanismes qui sont derrière.
En fait, l'objectif du livre, c'était vraiment de proposer de faire les deux à la fois. C'est-à-dire à la fois d'offrir, comme tu l'as très bien dit, des armes pour décrypter les argumentations qui nous sont proposées, qu'elles viennent de la politique, c'est à ça qu'on pense, a fortiori en ce moment, en premier lieu, mais qu'elles viennent évidemment de la publicité ou des personnes qui nous entourent. On passe notre temps à essayer de se convaincre les uns les autres. Et puis, c'est aussi apprendre à convaincre parce qu'on ne peut pas vivre dans une espèce de fantasme où nous chercherions à ne jamais avoir d'influence les uns sur les autres. On a besoin de se convaincre, nous autres, les êtres humains. humains, on est en permanence en désaccord et on a besoin d'être d'accord pour avancer, que ce soit au sein d'une société collectivement, au sein d'une entreprise ou même d'un couple ou d'un groupe d'amis. Donc c'est tout l'enjeu de ce livre, apprendre à convaincre et apprendre à convaincre en choisissant les procédés qu'on veut utiliser. Il y a des procédés déloyaux en rhétorique, ces procédés existent, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Et ça pose une question éthique, c'est est-ce que nous souhaitons les utiliser ? À titre personnel, je recommande plutôt de s'en détourner, mais chacun est libre de faire comme il le désire.
De faire comme il le désire, et donc on va parler forcément de rhétorique ce soir, mais je rappelle quand même le principe de l'interview. C'est une interview où on va revenir sur tes points de bascule, donc les moments qui ont fait que tu es là où tu es aujourd'hui. Et on n'est pas dans une discussion où on va montrer, oh regardez, comment est-ce que Clément Viktorovitch a réussi à monter, à accéder, à faire des chroniques régulières chaque semaine chez Quotidien ou France Info chaque jour. Mais c'est plus essayer de comprendre déjà d'où vient cet intérêt pour la rhétorique, comprendre aussi cette passion-là. Et de la même façon qu'on a eu un pilote de Formule 1 comme Pierre Gasly, et on a essayé de comprendre les coulisses de la Formule 1, de la même façon, là, il y a des choses intéressantes qu'on va pouvoir voir ensemble. Et je te propose de commencer avec le tout début, justement l'intérêt au départ pour la rhétorique, pour le langage, pour les mots. T'expliques que, et tu dis toi-même que t'as été fan de Robert Badinter ou Simone Veil à une époque où normalement t'es plus fan d'un Zinedine Zidane, de je ne sais qui. Comment ça se fait cet intérêt très jeune pour, est-ce que c'est l'art de la parole d'ailleurs, est-ce que c'est la politique, qu'est-ce qui t'intéresse à ce moment-là?
En fait, c'est très compliqué de répondre à cette question, et c'est en cela qu'elle est intéressante. C'est que la passion pour les mots, chez moi, ce n'est pas une évidence. Elle est présente depuis tout petit, et rétrospectivement, je sais qu'elle est présente depuis tout petit, et je n'en ai pris conscience qu'assez tardivement. Moi, quand j'étais gamin, enfin, je dis gamin jusqu'au lycée, hein, ce que je voulais faire, et c'est ça le premier point de bascule, hein, quelque part, de ma vie, excellent concept d'interview, par ailleurs, c'est que moi, je me rêvais astrophysicien. J'avais un peu la tête dans les étoiles, je voulais étudier les trous noirs, je n'avais pas du tout compris ce que c'était, mais ça avait l'air vraiment fascinant. Et bon, j'étais plutôt pas trop mauvais en maths, en physique, donc la voie était à peu près tracée. Et en fait, tout part d'un hasard qui est le moment où je me suis inscrit un peu au pif au journal du lycée, qui n'était pas forcément un journal d'une grande...
Par un quotidien tiré à...
Oui, voilà, c'est ça. Il n'y avait pas d'ambition grandiloquente. Mais en tout cas, j'ai commencé à écrire des petits articles et à me rendre compte qu'il se passait quelque chose avec les mots. Et que autant les maths, la physique, ça marchait, mais j'avais besoin de beaucoup travailler, autant avec les mots, il y avait un naturel, une aisance, une fluidité que j'ai découverte, en fait. Et c'est à partir de là que je me suis dit, j'aimerais travailler avec les mots, donc... Mon intuition à ce moment-là, c'est de devenir journaliste. Et puis derrière, bon, c'est parti un peu ailleurs au gré de mes études. Mais c'est ce qui fait que je découvre, en fait, cet intérêt pour les mots s'impose à moi. Et en fait, derrière, quand j'analyse, c'est assez évident. Ça vient évidemment de la famille dans laquelle j'ai grandi. Moi, j'ai une mère institutrice, passionnée de littérature, qui m'a transmis la passion des livres depuis tout petit. Un père qui est passionné de musique, musicien lui-même, et qui, pareil, m'a transmis la passion de la musique très jeune aussi. Et en fait, c'est ça, la parole, le langage, c'est des mots mis en musique. Donc, en fait... Bon,
il y a un mélange des deux. Et on voit que ça peut avoir des origines ici. Et par ailleurs, ce que je trouve intéressant, c'est que tu te retrouves du coup très tôt à avoir un intérêt pour des sujets, comme on le disait, qui sont... pas forcément toujours des intérêts qu'on peut avoir quand on est jeune. Ça me parle honnêtement à titre personnel parce que je sais pas si j'avais une passion pour Robert Badinter, même si je sais que je regardais certains de ses gros discours sur YouTube quand j'étais sûrement au collège, lycée, donc j'ai quand même ce petit point commun. Mais de fait, c'était une période, moi, à titre personnel au collège, lycée, où de la même façon, j'avais un intérêt pour la politique notamment, qui n'est pas quelque chose de très commun à cet âge-là. J'ai souvenir d'un procès de Jérôme Kerviel que tu allais voir quand j'étais en troisième.
À tout de même.
J'ai séché des cours. Ah oui, c'était quand même un peu bizarre. Il y avait des intérêts comme ça pour notamment la justice à l'époque et le droit qui étaient présents. Est-ce que toi, à titre personnel, ça avait un impact sur toi aussi du coup ? Est-ce que tu te retrouvais dans ton petit monde et tu le vivais bien ? Est-ce que ça t'a... Tu avais aussi le sentiment que ça te détachait de d'autres choses plus classiques, plus traditionnelles qu'on peut imaginer à cet âge-là, aller sortir, aller passer du bon temps comme ça. Comment est-ce que tu l'as vécu en soi ?
En fait, l'intérêt pour les mots, il passe chez moi beaucoup par la littérature et plus que par le discours. En fait, le discours, c'est venu un peu après. C'est plutôt venu dans mes années d'étudiant parce que derrière, pour devenir journaliste, ce que je finis par travailler dans le journalisme aujourd'hui, mais en fait, ça a été un long parcours plein de rebondissements. Donc, presque un hasard que je retombe sur ces pattes-là. Mais le discours, j'y viens un peu après, même si la politique, ça m'intéresse, ça me parle très vite. Mais moi, ça passe beaucoup par la littérature et beaucoup par la littérature de science-fiction. Ouais. Dans mes années de collège et de lycée, c'est là où j'ai dévoré tout Isaac Asimov, tout Frank Herbert. Et en fait, moi, j'avais un monde, comme tu le dis, moi j'avais un monde dans ces années-là, mais en fait, c'est l'univers de la pop culture, c'est-à-dire que l'univers dans lequel je gravite, et qui fait qu'effectivement, alors c'est l'époque où c'était pas cool d'être geek. Geek, c'était une insulte, quoi. Depuis, c'est devenu un titre de noblesse.
Ils sont milliardaires pour la plupart, donc voilà, c'est ça.
Mais à l'époque, pas du tout, quoi. Enfin, c'était vraiment ultra ringard de s'intéresser à la science-fiction et de jouer aux jeux vidéo et d'aimer les mangas. Et moi, j'étais vraiment un peu dans toute cette sphère-là. Et en même temps que j'avais un pied dans la culture classique aussi, parce que j'ai toujours été passionné par le théâtre. Et en fait, moi, ma jeunesse, elle est faite beaucoup de ces clivages-là, quoi. Ouais. C'est-à-dire d'avoir été quand même intéressé par les sciences dures et puis de finir dans les mots, d'avoir un vrai pied dans la pop culture qui m'a jamais quitté. Ça reste aujourd'hui une de mes vraies cultures chez moi. Et en même temps, d'être quand même intéressé par la culture classique.
Ouais. Et donc, ça allait un peu dans tous les sens, y compris du coup sur tes études, parce que tu l'as dit, tu rêvais de devenir astrophysicien au départ, puis tu commences en te disant je vais être journaliste, puis en fait tu finis par passer par l'histoire et à faire du travail de recherche en histoire. Comment est-ce que tu as fini par trouver ta voie là-dessus? Pourquoi cette succession d'expériences ou d'envies différentes? C'est quoi? C'est que toutes ces disciplines, sauf peut-être le fait d'être astrophysicien, mais partageaient des éléments communs justement sur le langage, sur tout ça. C'est ça qui les réunissait selon toi? Ou alors ça tient à autre chose?
Il y a plusieurs choses. Déjà, on est un certain nombre, alors en tout cas les personnes qui trouvent leur voie, on est un certain nombre à un moment dans notre vie à voir quelqu'un faire quelque chose et à dire « Ah, je veux faire ça ». Et en fait, moi, ça a été un peu particulier parce que le moment où je me suis dit vraiment ça, ah, je veux faire ça, c'était à la fac, en TD, quand j'ai vu un chargé de TD faire cours. Et autant, moi, je ne me sentais pas trop à ma place au lycée, c'était un cadre qui était trop contraint, autant je me suis épanoui, moi, j'ai fait mes études. En fait, j'ai fait ma thèse à Sciences Po, mais je suis rentré à Sciences Po très tard. J'ai fait toutes mes études à la Sorbonne, dans l'université publique, et je m'y suis senti comme un poisson dans l'eau. Et j'ai vu les chargés de TD, enseignants-chercheurs, faire cours avec une érudition, une passion. Et je me suis dit, mais je veux faire ça, en fait. Et donc, c'est le moment où, par ailleurs, je me rends compte qu'en fait, le fait de creuser des sujets en histoire, moi, mes premières années d'études, c'est en histoire, le fait de creuser des sujets, c'est quelque chose qui me passionnait plus que d'être un peu un touche-à-tout, qui était l'image que j'avais du journalisme, qui n'est pas forcément vrai, par ailleurs. Ouais. Et donc, à ce moment-là, je me dis, je veux faire de la recherche, je veux enseigner. Et en fait, ça, pour le coup, ça ne m'a jamais quitté. Et là où derrière, il y a une recherche de soi-même, c'est sur la discipline. C'est-à-dire que j'étais en histoire, donc j'ai continué, quoi, dans la branche d'histoire qui me parlait le plus, qui était étonnamment l'histoire du haut Moyen-Âge occidental.
Chacun sa passion. Hein,
écoute, voilà, chacun ses tendances étranges. D'ailleurs, c'est le cas de le dire, puisque je fais mon mémoire de maîtrise sur le mariage et la sexualité des clercs à l'époque mérovingienne.
Okay.
Donc, un an à étudier les évêques fornicateurs, c'était merveilleux. En vrai, c'est vraiment intéressant. Et en fait, à la fin de l'année, je me rends compte que la recherche, ça me parle, que l'enseignement, j'ai toujours envie de le faire, mais que par contre... J'en étais venu à commencer à faire des blagues en latin, ou du moins à rire aux blagues qu'on me faisait en latin. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Pour le coup, c'est la fin de ma vie sociale. Je vais finir avec des vestes en tweed, avec tu sais, des coudières. Donc, je me dis non. En fait, c'était pas la vie que j'avais envie de mener. J'avais envie d'être plus en prise avec les enjeux politiques contemporains. D'où, à ce moment-là, le fait de me réorienter vers un master 2 et derrière une thèse en sciences politiques. Et puis, à partir de là, tout s'enchaîne, quoi. L'intérêt pour le discours, donc j'étudie le Parlement, donc la rhétorique est derrière ça.
Mais c'est ça file. Ce qui est drôle, c'est que quand on reçoit des gens ici chaque semaine et que vient la question du coup des points de bascule et de ce parcours-là, il y a forcément la question des études qui vient à un moment, le fait d'en faire ou de pas en faire, le fait de continuer ou d'arrêter. Ce qui est drôle, c'est que dans ton cas, il n'y a pas eu un moment précis qui t'a fait basculer dans ce que tu fais aujourd'hui. Et c'est drôle de voir que ça a été une succession de petites choses, de petites, je dirais pas d'hésitation forcément, mais de précisions au fur et à mesure de tout ça. Et dans ces années d'études, toi, tu vis ça sereinement, tu vis ça parce qu'on sait que c'est plein de jeunes en fait se retrouvent dans ces situations de se retrouver perdus, de se dire ouais ça j'aime un peu mais je sais pas trop, je sais pas où est-ce que je peux aller. À ce moment-là, toi, tu as une confiance en l'avenir, tu te dis bah ça va venir par se préciser. Comment est-ce que tu vis ça?
Moi, à ce moment-là, déjà, j'ai une chance, c'est que j'habite à Paris et je suis logé par mes parents qui habitent à Paris. Et en fait, c'est une énorme chance. C'est-à-dire que je n'ai pas à me préoccuper de ce dont beaucoup de jeunes et d'étudiants doivent se préoccuper. Et je l'ai vu vraiment aux premières loges, si je puis dire, parce que derrière, moi, j'ai enseigné 3 ans à l'Université Paris 13, qui est l'université de Villetaneuse, et l'immense majorité de mes étudiants bossaient à côté. Donc, j'ai vu à quel point c'est dur de faire les deux ensemble. Et moi, j'avais la chance de ne pas avoir ce problème-là. Donc, j'ai pas été un étudiant trop anxieux de l'avenir, même si, quand tu te destines à la recherche, tu as tout de suite cette pression sourde qui est que tu sais que c'est un milieu ultra compétitif. Ouais. Et tu sais qu'à un moment donné, ça va être compliqué et qu'on te dit tout de suite que c'est quand même un peu une formation avec une mention chômage, quoi. Que, ce qui n'est pas tout à fait vrai, d'ailleurs. Les chercheurs s'emploient bien. Ouais. En tout cas, les docteurs ou doctorants s'emploient bien.
Et puis l'image qu'on peut avoir
qui est un peu fausse. Moi, je déconseille à personne de faire une thèse, ou du moins de la recherche. C'est vraiment une aventure. Mais les années d'études se passent bien. La thèse est beaucoup plus difficile. Le moment dur, c'est la thèse. Parce que là, c'est vraiment... Alors, tous les doctorants la vivent un peu différemment. Moi, je crois que je l'ai vraiment vécu particulièrement mal.
Le sujet aussi, peut-être.
ouais. Alors c'est, encore que, tu vois, le sujet, c'est vrai que les débats parlementaires à l'Assemblée nationale, au Sénat, ça a l'air super chiant. Mais je sais que toi, tu vois tout le
bien
sel
sûr, je
et
vois
le piquant
ce qu'il y a derrière,
du sujet. Non, mais c'est même pas tant le sujet. C'est qu'en fait, la thèse, c'est vraiment l'expérience de la solitude. Et pour le coup, d'une pression et d'une compétition immense. Parce qu'en sciences sociales, il y a tellement de candidats pour tellement peu de postes. Ouais. Et ça, c'est pas facile.
Et donc, on va avancer justement, parce que suite à cette solitude, quelques années après, il y a eu une tentative, je sais pas d'ailleurs en termes d'années, je sais pas si c'était peut-être déjà à ce moment-là, une tentative et d'arriver sur une plateforme. Cette plateforme, c'est YouTube. T'as alors, il me semble, dans les près de 25 ans, et tu te lances du coup sur YouTube avec une série de vidéos que tu faisais avec des potes, d'analyse de discours, d'un point de vue rhétorique que tu postes sur YouTube, ce qui te faisait toi, comme tu le dis, un des premiers youtubeurs politiques de France à l'époque.
Je pense, ouais.
C'était en quelle année ça d'ailleurs, la chaîne YouTube?
C'était en 2011 que je fais ça. Donc, en fait, à l'époque, il n'y a pas de YouTube politique. Ça n'existe quasiment pas. Les seuls youtubeurs politiques qui existent, et c'est encore sous forme embryonnaire, c'est des youtubeurs d'extrême droite. Ouais. Donc, c'est Alain Soral
et tout qui était présent. Ouais.
Mais sinon, il n'y a pas de YouTube politique généraliste, il n'y a pas de YouTube politique engagé à gauche. C'est l'époque où Usul fait déjà ses vidéos, mais sur jeuxvideo.com. Ouais. Il fait le 3615 Usul. Et en fait, moi, c'est clairement mon influence. C'est-à-dire, je vois Usul faire ces vidéos-là, je me dis, mais en fait, c'est génial. Et il y a matière à faire la même chose pour parler d'analyse du discours. Mm. Donc, je lance cette série de vidéos qui s'appelait Fenêtre sur discours, qui était assez précurseur, en fait, à tout point de vue. Parce qu'au fond, ce que je faisais à l'époque, c'est ce que je fais aujourd'hui.
C'est ce que j'allais dire, c'est que c'est moi, j'étais tombé sur ces vidéos plusieurs fois et j'avais beaucoup apprécié. Et j'y voyais ce qu'on voit aujourd'hui dans tes chroniques au quotidien. C'est-à-dire qu'il y avait ce travail d'analyse via des vidéos sur YouTube. Mais toi, tu considères qu'aujourd'hui, c'est une forme d'échec à ce moment-là, en tout cas de difficulté majeure sur le moment. C'était quoi? C'était le passage comme ça de public, disons, à travers des vidéos qui n'était pas évident, le fait de trouver son audience, etc., qui n'était pas évident à trouver, ou qu'est-ce qui le rendait difficile selon toi?
En fait, paradoxalement, les vidéos, à l'époque, fonctionnent. Elles fonctionnent à peu près, notamment une série de vidéos qu'on appelle avec le titre le plus putaclic possible, c'est le top 5 des humiliations politiques. Et les vidéos font tout de suite plusieurs centaines de milliers de vues, ce qui à l'époque est beaucoup. Et elles finissent par passer le million, ce qui à l'époque, c'était pas mal, quoi.
Mais pourtant, tu la pousses pas, cette chaîne, plus que ça, à ce moment-là, quoi.
Non, parce qu'en fait, je fais ça en parallèle de ma thèse. Ouais. Et c'est trop de travail. Je me sens pas forcément à l'aise devant une caméra. Et ça n'a jamais bougé. C'est-à-dire que moi, l'expérience du fast cam enregistré, c'est de tous les formats, c'est celui que j'aime le moins. De
Pourquoi
très
Parce qu'il est moins spontané, parce qu'il est plus dur à...
Il est impersonnel, c'est-à-dire j'ai l'impression de parler à personne. J'ai vraiment l'impression de parler à un boîtier. Ouais. Et autant
que le cas,
littéralement le cas. Ouais. Et autant quand t'es à la télé ou en radio où il y a des gens autour de la table, tu as des interlocuteurs. Et puis à la radio en plus, quand t'es en direct, tu sais que tu parles directement à des gens. Donc, tu as cette conscience-là. Sur Twitch, bah, tu as le retour, tu as le chat. Ouais. Bon. Et là, vraiment, c'est en fait une forme d'éloquence sans auditoire, ce qui, pour un... pour quelqu'un qui s'intéresse à la rhétorique, est presque le cauchemar absolu, quoi. Ouais. En tout cas, moi, ça me convenait assez mal. Et puis, c'était beaucoup de travail. Je faisais toute la production tout seul, quasiment. Et je faisais ma thèse en parallèle. Ouais. Et en fait, quand ça a commencé à marcher, je me suis senti dépassé. Quelque part, au fond de moi, j'ai senti que c'était un peu soit ça, soit ma thèse. Et j'ai choisi ma thèse.
Et donc, au final, tu continues sur ta thèse jusqu'à, et là, on avance un petit peu plus récemment, un autre point de bascule majeur, c'est le passage, non pas sur YouTube, mais sur la télévision. Ouais. Et c'est peut-être là, d'ailleurs, que beaucoup t'ont connu. Tes débuts à la télé, c'était notamment sur CNews, au départ, avec dans l'émission de Pascal Pro. Je ne sais pas si elle s'appelait L'heure des pros à l'époque, c'était un autre nom.
Elle s'appelait... En fait, mes tout débuts, c'est une émission que Pascal Pro... En fait, c'est un moment particulier. iTélé a été racheté par le groupe Vivendi. Il y a une énorme grève.
Donc
Vincent Bolloré. Il y a une énorme grève pour plein de raisons dont on pourrait parler longuement. Ouais. Et au terme de cette grève, il y a 70 à 80% des employés, notamment des journalistes de iTélé qui devient CNews à ce moment-là, qui partent. Donc là, c'est une chaîne d'infos qui est vide, en pleine présidentielle. On est en tout début 2017. Situation complètement inédite. Et moi, iTélé m'invitait, notamment Audrey Poulvard m'invitait de temps en temps pour faire du décryptage de la com politique. Et à ce moment-là, ils se retrouvent à avoir besoin de beaucoup de gens sur leur plateau pour tenir leur antenne. Et ils m'invitent de plus en plus jusqu'à ce que, effectivement, Pascal Pro me repère. Et lui, il lançait une émission. C'était le moment où il se lançait en matinale. Il avait déjà l'heure des pros. C'était le tout début. Et après l'heure des pros, il avait une demi-heure qu'il fallait meubler et il invente un concept qu'il appelle le zapping des matinales, je crois. Je crois que ça s'appelle comme ça. Et en fait, le concept, c'est déjà ce que je fais. C'est déjà ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire, il y a un journaliste qui sélectionne quelques extraits dans les matinales. On est trois en plateau, pro, moi et un analyste politique, plutôt éditorialiste. Et on commente des extraits de discours du matin.
Pour les analyser, pour voir tout ça. Et c'est vrai que moi, donc, j'étais vraiment connu via des extraits de, je dirais pas de clash, mais aussi de confrontation avec diverses personnalités politiques ou invités, éditorialistes ou autres qui étaient présents, parce que c'était une émission qui était aussi une émission de débat, où tu te retrouvais face à d'autres personnes, pas toujours d'accord avec toi, et où tu jouais un peu cette posture-là, d'essayer d'analyser des choses et d'avoir une posture. D'ailleurs, je ne sais pas comment la qualifier. Est-ce que c'est une posture, selon toi, journalistique, plus de, je dirais pas éditorialiste, parce que ce sera encore autre chose. Comment est-ce que toi, tu la définissais, cette posture à l'époque ?
En fait, c'est une bonne question et comme toutes les bonnes questions, j'ai du mal à y répondre.
Ouais.
Ça, c'est l'année d'après où en fait Pro me dit, en fait la collaboration se passe bien, il veut me garder, mais le zapping des matinales marche pas et donc ça s'arrête et l'heure des pros, son émission, son talk-show, passe en format 1h30. Il me dit, je vous garde, mais dans l'heure des pros et vous allez faire la même chose. Et donc au début, je suis là pour faire de l'analyse rhétorique, c'est comme ça qu'on me recrute.
Mais pendant l'analyse rhétorique des gens qui débattent ?
Non, en fait, j'ai une chronique dans l'émission.
T'as à nouveau ta chronique.
Ouais, c'est ça, je suis le seul chroniqueur, j'ai ma chronique. Et en fait, la chronique n'a pas de place dans l'émission, c'est-à-dire qu'à un moment donné, à un moment totalement random, Pascal Pro dit « Bon, c'est l'heure du zapping des matinales ». Et puis ça passe sur moi, ça arrive comme un cheveu sur la soupe, c'est un peu bizarre.
Tout le monde te regarde sur le plateau.
Ouais, c'est ça, tout le monde me regarde. Donc ça n'a pas sa place. C'est clairement pas le bon format. Pro le sent tout de suite, tout le monde le sent. Et en fait, ce qui se passe dans l'émission, c'est qu'autour de la table, moi, ma posture, c'est une posture de chercheur. Et il y a des invités qui disent des choses qui me semblent critiquables, contestables, factuellement erronées. Et comme moi, j'ai pas ma langue dans ma poche, je le dis, je prends la parole, je le dis. Et Pascal Pro découvre à ce moment-là, et moi-même, quelque part, je le découvre aussi, me découvre des talents de débatteur. Ce qui, évidemment, lui plaît beaucoup plus. Et progressivement, il a supprimé ma chronique peu à peu au fil des semaines en me disant, moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous restiez sur le plateau et puis quand il y a un truc qui vous semble faux, contestable, vous le dites. Et ça devient ça, mon rôle, quoi. Donc, ça devient un rôle presque de sniper universitaire. Ouais. On pourrait presque dire ça comme ça. Et évidemment, à partir de là, en fait, c'est une posture qui n'est tellement pas claire, mal définie, que forcément ça glisse. Et en fait, de la simple contradiction universitaire, ça glisse assez vite en réalité à des débats d'opinion qui sont plus du coup le rôle que j'ai envie de d'assumer. Et c'est pour ça qu'au bout, à la fin de l'année, je leur dis bah je suis plus à ma place dans cette émission en fait. Je joue un rôle qui est plus le mien, donc je pars.
Et ça rejoint un petit peu une question que moi je me pose à titre personnel dans mon travail, que tu te poses peut-être aussi et que je vois est très présente dans les retours des gens. Quand moi, je reçois des messages de réaction sur le travail qu'on fait, on reçoit beaucoup de messages de gens qui disent « c'est trop bien parce que c'est neutre ou c'est objectif ». Et j'ai beau répéter le plus possible lors de la moindre FAQ ou le moindre truc, ou même ici, que la neutralité, ça n'existe pas, l'objectivité, ça n'existe pas pour un journaliste, tu ne peux pas l'être, et voilà. Même si j'entends ce qui est dit, j'entends la recherche sur le ton, sur l'approche des sujets, pour autant, ça n'existe pas complètement. Mais c'est un retour qui est souvent posé sur les journalistes. On leur dit t'es neutre, ou à l'inverse t'es pas neutre, ou t'es pas assez neutre, ou je ne sais quoi. Mais c'est une question qu'on pourrait poser aussi dans ton cas, ou que les gens pourraient se poser, de se dire est-ce que du coup un chercheur peut avoir cette même neutralité? Est-ce que ça existe? Est-ce que ça n'existe pas? Quel regard est-ce que toi tu portes sur cette question de la neutralité dans le rôle que tu as aujourd'hui d'essayer d'expliquer des phénomènes de rhétorique?
Pour moi, il faut séparer les deux, en fait. Il faut séparer la neutralité et l'objectivité. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi, et il faut le dire et il faut le répéter, sur le fait que l'objectivité n'existe pas. C'est-à-dire que nous sommes de toute façon des sujets, et donc nous avons notre subjectivité. On regarde le monde à travers notre prisme. Celles et ceux qui prétendent avoir un point de vue ou une parole sur la politique en se disant objectif, je pense, soit leur audience, soit se leurre eux-mêmes, se mentent à eux-mêmes. Donc c'est la première chose à dire. On a tous et toutes un point de vue et il faut l'assumer. La neutralité, c'est un peu différent. Pour moi, la neutralité, c'est le fait de ne pas exprimer son opinion. Et c'est différent d'en avoir une et de ne pas l'exprimer. Moi, travaillant pour une radio du service public, France Info, je suis astreint à une bien légitime neutralité. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit d'appeler à voter pour qui que ce soit. Et il est même important qu'on ne sente pas mon opinion, ou le moins possible, dans mes chroniques. Donc, comment est-ce qu'on tient cela? On tient cela justement en s'astreignant à une double, selon moi, en tant qu'analyste, qui n'est pas la même posture qu'un intervieweur. En tant qu'analyste, je m'astreins donc à un devoir de neutralité. Mes chroniques sont neutres. J'appelle à vous. Enfin voilà, elles ne prennent parti pour personne. Et surtout, et je pense que c'est le plus important, un devoir d'honnêteté. C'est-à-dire que je ne donne jamais mon avis. Je donne une analyse et cette analyse, elle est argumentée. Toutes les étapes de mon raisonnement sont posées en pleine lumière. Chacune de ces étapes est critiquable et je soumets mon travail à la critique. Donc moi, c'est comme ça que je résous ce dilemme. C'est-à-dire que je ne prétends pas être objectif. J'essaye d'être le plus neutre possible, même si forcément, quand tu prends la parole tous les jours, on peut, au fur et à mesure des chroniques, sentir une sensibilité.
Tendance,
C'est inévitable. Mais par contre, on ne pourra jamais me reprocher d'avoir appelé à voter pour quelqu'un ou chercher à influencer à travers une chronique. Et en tout état de cause, j'essaye d'être honnête, c'est-à-dire que je propose un raisonnement à charge à ceux qui ne sont pas d'accord de le critiquer.
Il y a eu, lors des pros donc, sur CNews, où on a bien compris que ce n'était pas forcément la posture dans laquelle tu étais au final le plus confortable ou que tu voulais vraiment porter à la télévision. Il y a eu après d'autres choses, notamment là plus récemment, il y a eu Quotidien de façon hebdomadaire et France Info au quotidien. Et entre les deux, il y a eu Clic avec Mouloud Achour qui a été là aussi. Un autre moment, je pense, qui t'a fait beaucoup connaître. Ce que je trouve bien, c'est qu'en parallèle à ce que tu faisais du coup dans Clic, tu étais encore enseignant à Sciences Po. Et est-ce que là-dedans, il y avait aussi une volonté de se dire, je peux pas juste transmettre ça à des, si je caricature vraiment grossièrement le truc, à des étudiants de grandes écoles qui ont déjà beaucoup d'outils, beaucoup d'armes entre guillemets pour réussir, ne serait-ce que via leur diplôme qui peut leur aider beaucoup, et j'ai envie de porter ça au-delà.
Ouais, tu caricatures pas du tout, c'est exactement ça. Moi, j'aime beaucoup enseigner à Sciences Po, c'est ma maison, c'est là où j'ai fait ma thèse, j'y enseigne depuis 15 ans, donc c'est un plaisir, j'adore la relation que j'y ai avec les étudiants, donc pour moi, c'est un plaisir d'enseigner à Sciences Po, mais je sais, je pense, j'estime que c'est pas là où je suis le plus utile, et qu'effectivement, donner des armes aux étudiants de Sciences Po, c'est en donner à des individus qui en ont déjà beaucoup. Et donc, pour moi, ça a toujours été important de ne pas enseigner que là. C'est pour ça que, pendant 3 ans, j'ai enseigné dans une fac de banlieue à Ville-Tanneuse. Derrière, j'ai monté un projet avec la ville de Montreuil, on propose des ateliers rhétoriques dans tous les lycées publics de Montreuil, avec moi et puis des copains avec qui je travaille. Ouais. Et donc, il y avait cette volonté aussi de permettre à tous les jeunes lycéennes et lycéens, toutes les jeunes lycéennes et tous les jeunes lycéens de Montreuil qui le désirent, de se former à la rhétorique. Et puis, tout ceci se finit dans un grand concours d'éloquence, évidemment. Et la télévision, c'est pareil, en fait. Ouais. C'était l'idée que c'était la manière de toucher le plus de gens. Ouais. Et pour le coup, chez Click, tu parles de point de bascule. Bon, un des énormes points de bascule, c'est le moment où Mouloud Achour me passe un coup de fil pour me dire, dis donc, je monte une quotidienne, est-ce que tu veux rejoindre l'équipe? Et en fait, là, tout s'enchaîne. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai accès à une immense audience. Je suis dans un endroit où je suis à ma place, c'est-à-dire dans une émission qui est beaucoup plus street, beaucoup plus pop culture, ouais. Et qui en fait correspond beaucoup plus à ma culture, à moi. Je rencontre des gens qui deviennent des amis, hein, toute l'équipe de Click, qui sont encore aujourd'hui évidemment des amis. Et puis c'est l'opportunité tout d'un coup de parler à un public qui sinon m'aurait jamais découvert et sinon se serait peut-être pas intéressé à la rhétorique. Ouais. Et puis derrière vient le livre qui est une traduction directe, c'est-à-dire qu'évidemment quand t'as comme ça une chronique qui commence à un peu bien marcher, bah il y a les éditeurs qui s'y intéressent. Je choisis Le Seuil, qui est un éditeur très universitaire, parce que mon objectif, c'est de faire un livre qui soit un livre rigoureux. Je ne veux pas faire un livre de chroniqueur. Ouais. Je veux écrire un livre d'universitaire, qui soit un bilan, un manuel sur la rhétorique. Et aujourd'hui, je vois sur les réseaux sociaux, sur Instagram, les gens qui m'envoient des messages pour me dire « Il y a des gens qui me disent « J'ai acheté ton livre, c'est le premier livre que j'achète depuis le lycée. » Et c'est des gens qui ont 30 ans. Et alors, je ne sais pas si c'est le meilleur premier livre à acheter après le lycée, mais en tout cas, c'est super. Et c'est des gens qui m'ont connu par Click, quoi.
Et c'est quelque chose qu'on voit, moi, je l'ai beaucoup vu dans le cadre de ton livre. On le voit dans un point de vue sur un côté plus politique, avec aussi le cas de Raphaël Glucksmann, qui, son livre, on le voyait, il y a eu des files d'attente immenses pour des dédicaces, etc., avec un public très jeune qui, au final, s'est retrouvé intéressé par ces sujets d'actualité. Donc, on voit que c'est un effet majeur. Et ça me parle beaucoup ce que tu dis sur le fait de justement pas faire ton travail pour des gens qui sont à Sciences Po. Moi, je le dis, justement, donc j'ai eu ton cours dans le cadre de mes études à Sciences Po et c'était le même raisonnement aussi sur ma chaîne, de me dire, mais si je fais ma chaîne YouTube qui essaie de parler d'actualité pour des gens qui sont à Sciences Po, en fait, ma chaîne n'a aucun intérêt parce que les gens qui sont à Sciences Po lisent Le Monde, enfin, c'est caricature, mais régulièrement le truc. Ils n'ont pas besoin de ça et l'objectif, c'est d'aller bien au-delà. Et donc, ça me parle complètement, quoi. Et par ailleurs, ce que je trouve intéressant, c'est que tu as été... d'abord à la télévision, d'abord sur un format, disons, plus traditionnel, pour ensuite aller, et là, ça va être un autre point de bascule, sur un retour sur les réseaux sociaux, là où, en général, c'est souvent l'inverse qui se produit beaucoup. Pourquoi ? Parce que, au fur et à mesure, via les chroniques dans Click, sur Twitter, on a commencé à davantage te suivre, puis il y a eu différents réseaux sociaux, jusqu'à un retour, notamment sur Twitch, même une arrivée réelle sur Twitch. Gros point de bascule, là aussi, c'est plus récent. Comment est-ce que ça s'est fait ? Pourquoi est-ce que ça s'est fait ? C'est pas évident, en plus, de se lancer sur Twitch au départ. T'as pas une audience garantie au jour 1 comme t'as en télé, quoi. Donc c'est nouveau.
En fait, moi, déjà, la première chose, c'est que je suis un viewer de Twitch depuis les débuts de la plateforme. Je commence à suivre Twitch, l'e-sport, le casting à partir de 2011-2012, à l'époque où d'ailleurs ça se passe même pas tant sur Twitch et en France plutôt sur O-Gaming. Ouais. Et je crois qu'ils diffusent sur Dailymotion à l'époque. Ouais. C'est vraiment la préhistoire quoi, du streaming. Et voilà, ça m'avait toujours plu. J'ai suivi Jean Massiette très très tôt. À l'époque où il n'était pas non plus sur Twitch.
Streamer aussi sur Twitch. Ouais, le premier, en fait, à avoir vraiment amené comme ça la politique sur Twitch.
Ouais, exactement. Et donc, moi, c'est un univers que je connaissais depuis longtemps. J'avais depuis longtemps l'envie d'y revenir et je ne savais pas trop comment m'y prendre. Ça me semblait compliqué. Et en fait, le point de bascule, il est extrêmement précis pour le coup et il est hyper anecdotique. C'est le moment où Game of Thrones, qui est une émission de jeu de rôle sur Twitch, qui est peut-être la plus grosse ou la plus connue, en tout cas, des émissions de jeu de rôle sur Twitch. Game of Thrones passe sur la chaîne de MrMV, qui est un streamer que moi, je suivais depuis longtemps. Ouais. Et ils lancent leur saison 5. Et donc, j'en parle dans Click. Je fais une mini pastille de 2 minutes pour dire à tout le monde, il se passe un truc cool sur la chaîne de MrMV. Bon. Et en fait, l'équipe voit la pastille, ça les fait rire, ça leur fait plaisir. Mm. ils me contactent. Et en fait, tout s'est enchaîné à partir de là. C'est-à-dire qu'ils m'ont intégré comme un personnage dans leur saison. Donc, j'ai été faire un épisode de Game of Thrones avec eux, où je joue le roi Klemovitch. Voilà. Et je sympathise avec Fibre Tigre, qui est le maître du jeu de Game of Thrones. Et il me dit, j'ai un projet de jeu de rôle politique. Il me dit ça comme ça. Et on en reparle un an plus tard. Moi, à ce moment-là, je travaille pour France Info. Il me dit, je cherche un partenaire. Et je lui dis, moi, je vais aller en parler à France Info, ça peut les intéresser. Et en fait, de là naît un projet qui nous a occupé pendant toute une bonne partie de l'année, qui est Game of Thrones, Les Deux Tours, qui est un jeu de rôle présidentiel où on invite des streamers, mais pas que des streamers, on a aussi Aurore Laluc, qui est députée européenne, et donc Jacqueline Markovitch, qui est une élue locale. Donc on invite des gens à venir faire une simulation d'élection présidentielle.
Avec des personnages, par ailleurs, assez tous plus drôles les uns que les autres.
Avec des personnages en couleur, évidemment. Et en même temps, à la fois, on joue tous et toutes des personnages un peu caricaturaux, et en même temps, il y a la vraie rigueur de France Info. C'est tourné à France Info, avec un journaliste de France Info, Jules Dekis, qui est là pour apporter des éléments factuels. Nous, on se met vraiment dans la peau des personnages. Je pense que les débats de Game of Thrones et de Tours ont été mieux tenus qu'une partie des débats à la présidentielle. Je pense à certains qui ont été un véritable pugilat. Ouais. Et chez nous, non, il y avait des arguments, bon, ça se tenait. Et en fait, Game of Thrones et Deux Tours, France Info dit, c'est super, on achète le projet, on fait ça, mais on ne veut pas que ce soit sur notre chaîne Twitch, parce qu'on ne sait pas trop encore comment se lancer sur Twitch. Bon, depuis, ils se sont lancés. Ouais. Et ils me proposent que ce soit sur ma chaîne perso, qui n'existe pas. Et c'est à ce moment-là où, en fait, un peu contraint et forcé, heureux de l'être. je me lance sur Twitch, ça part en absence de décor total, avec deux projecteurs mal réglés, un micro pas réglé, et je me suis pris au jeu, les gens ont suivi, je leur en suis très reconnaissant, et donc aujourd'hui, c'est une des choses qui me rend le plus enthousiaste.
J'allais dire, du coup, on peut te suivre dès maintenant sur Twitch, pour ceux qui ne te suivent pas, et c'est... Qu'est-ce qui fait d'ailleurs que ça te plaît autant ? Parce que on pourrait se dire, tu vois, quelqu'un qui connaît pas bien Twitch ou les mécanismes derrière ou ce qu'on peut y apprécier pourrait se dire, bon, t'es passé d'une chaîne d'un clic ou même d'un quotidien où t'as 1 million, 2 millions de personnes qui te regardent à un truc où tu peux avoir des milliers de personnes qui te regardent. Pourquoi faire après tout ? En plus, c'est des galères techniques à tout point de vue. Qu'est-ce que tu retrouves sur Twitch que t'as pas ailleurs selon toi ?
En fait, c'est intéressant parce que effectivement. Quotidien, 2 millions de téléspectateurs. Bon, Twitch, ma chaîne Twitch, c'est entre 2000 et 5000, quoi. Ce qui est déjà une jolie audience.
Ce qui est très fort sur Twitch. Hein.
Ouais. Mais bon, on a l'impression que c'est ridicule. Bon, tu peux le présenter autrement. Un cours à Sciences Po, 100 personnes.
C'est vrai.
Une conférence dans un bel amphi, 500 personnes. Twitch, 5000. Et donc, en fait, tout dépend à quoi tu le rapportes. Et en fait, Twitch, c'est tout simplement un autre format. Déjà, moi, je suis convaincu que... Alors, je suis convaincu que ça ne va pas remplacer les médias traditionnels. On aura toujours besoin d'une information qui soit vérifiée, travaillée, sourcée, condensée. Les gens auront toujours besoin de flash info qui tiennent en 2 minutes. Donc, la radio, la télé ne vont pas disparaître. Mais par contre, je pense que Twitch va monter en puissance parce que c'est autre chose. Déjà, c'est une autre relation aux spectateurs qui ne sont pas des spectateurs, qui sont des viewers, qui sont actifs. C'est un véritable moment d'échange. Et pour quelqu'un qui travaille sur l'actualité, c'est une opportunité merveilleuse parce que c'est l'opportunité d'interagir, d'aller chercher des arguments, de frotter ta pensée à la contradiction, ce que tu n'as pas dans les médias. Dans les médias, tu écris ta chronique, tu viens, tu la délivres, tu rentres chez toi, éventuellement, après, tu as les critiques sur les réseaux sociaux. Alors que là, tu dis une phrase, et si tu dis une bêtise, immédiatement, tu as 10 viewers qui te le font remarquer. Ça peut être assez virulent, mais ça, c'est ça qui est intéressant, d'ailleurs. C'est que c'est aussi une autre exigence. Et je trouve que pour moi, en fait, Twitch, c'est un lieu d'élaboration de la pensée, d'élaboration de l'analyse. C'est un lieu où tu as le droit à l'errance, tu as le droit à la recherche, tu as le droit à l'incertitude. Et moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises de façonner mes analyses ou mes réflexions avec mes viewers. Ouais. Parfois en étant critiqué vertement et parfois en reconnaissant que j'avais dit une bêtise, pour ensuite aller proposer cette même analyse sur Quotidien ou à France Info, en étant cette fois-ci en fait davantage assuré parce que je l'avais expérimenté, je l'avais forgé au fer de la contradiction de mes viewers.
Très fort, je pense que ça parlera à ceux qui nous regardent, et c'est vrai que je le retrouve aussi, je pense que beaucoup de streamers le retrouvent. C'est d'ailleurs intéressant de voir que toi, tu as eu le passage, donc on le redit, de télé à Twitch, que tu continues là les deux en parallèle aujourd'hui, mais il y a aussi beaucoup de YouTubeurs qui ont le passage de YouTube à Twitch, et au final, il y a un peu des mécanismes similaires, parce que certes, on a des commentaires sur YouTube, mais on n'a pas cette interaction, ce côté spontané en fait qu'on retrouve, et c'est mon cas à titre personnel, ou entre une vidéo YouTube, ou comme tu le dis, en face cam, tu parles à une boîte, et c'est en plus quand même bien écrit, c'est écrit, donc t'as pas ce côté spontané, et un Twitch où tu peux échanger comme on le fait en ce moment, c'est pas du tout la même chose, et on le ressent, quoi.
En fait, la différence, c'est que les commentaires, qu'ils soient sur les réseaux sociaux ou sous une vidéo YouTube, tu peux les ignorer. Tu peux les ignorer, tu peux choisir de ne pas en tenir compte, et quand ils ont un impact psychologique sur toi, j'imagine que t'as connu des commentaires qui parfois étaient soit très méchants mais bien ciblés, soit critiques et bien ciblés aussi, t'as des commentaires que tu te prends et qui ont un impact même émotionnel sur toi. Mais c'est après coup, la production elle est faite. Alors que sur Twitch, les commentaires tu les as en direct et tu peux pas les ignorer. Tu peux pas ignorer 10 personnes qui sur un chat disent en boucle t'as commis une erreur. C'est impossible. Tu peux, et quand les commentaires ont un impact émotionnel sur toi, quand ils te mettent mal parce que c'est une critique qui est justifiée, bon, des fois t'as des connards sur ton chat. Donc là,
ça existe aussi.
Donc t'as un impact émotionnel pour une mauvaise raison. Moi j'ai de la chance, j'ai une commu qui est ultra bienveillante en plus, donc j'ai même pas trop ce problème là. Mais en tout cas, quand t'as des critiques qui sont justifiées, tu te les prends en pleine poire et t'es forcé d'y réagir parce qu'elles ont un impact et que ça se voit, et c'est ça qui est intéressant.
Ça, on voit du coup là, la force de Twitch, et ce sera, je pense, un beau mot de la fin. Je réalise que ça fait plus de 40 minutes qu'on parle, on a largement dépassé ce que j'avais imaginé niveau timing, mais c'était passionnant, merci beaucoup.
Merci.
Je réalise au passage que je t'appelle jamais juste par ton prénom, j'ai l'impression que les gens même te définissent, c'est pas juste Clément, c'est Clément Viktorovitch.
Oui.
Les gens t'appellent comme ça, j'ai commencé je crois la discussion en t'appelant Clément Viktorovitch. Mais merci d'avoir été présent, c'était
merci
super intéressant.
Toi,
je redonne d'ailleurs du coup le nom de ton livre pour ceux qui veulent le découvrir, la caméra est ici, ça. Le pouvoir rhétorique qui du coup revient sur tous ces sujets-là et les enjeux. Et on peut te suivre. Moi, j'ai tendance aussi à beaucoup suivre tes chroniques, notamment sur Twitter. Si on n'a pas l'habitude de France Info ou de autre, on peut te suivre notamment beaucoup sur Twitter. Qu'est-ce qu'on te souhaite là pour la suite? Peut-être un peu de repos après la présidence.
Ouais, c'est ça, de survivre à la fin de l'année. C'est une année dense, un peu de repos et puis d'autres beaux projets. Moi, ce que j'aime, c'est la créativité, se forcer à se réinventer, et je vais essayer de continuer de faire ça pour les années qui viennent.
Et Robert Van Inter et Simone Veil aussi, t'apprécient beaucoup, ça on aura compris depuis plus jeune âge. Merci encore pour ta présence aujourd'hui.
Voilà donc pour cet échange, j'espère qu'il vous a intéressé. Pour en savoir plus sur Mashup, toutes les informations sont directement en description. N'hésitez pas d'ailleurs à me suggérer, pourquoi pas, des noms d'invités. Pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochains échanges. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.